L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est David Sabah, en permission à Strasbourg, réserviste de l'armée israélienne, ancien journaliste ici à Radio Judaïque à Strasbourg et aujourd'hui créateur de films vidéo en indépendant pour Sabah Productions. Il va nous parler également d'un projet à venir, d'une pièce de théâtre sur justement le conflit en Israël. David Sabah, bonjour.
Bonjour Valérie, c'est un plaisir de venir.
Ah ouais, mais nous quel plaisir déjà de vous voir en pleine forme.
Merci.
Aujourd'hui et sur cette permission qui ne va pas durer très longtemps, donc on profite et on va faire cette interview parce que voilà, vous vivez les événements de l'intérieur, nous on les vit plutôt de l'extérieur et c'est peut-être bien aussi de remettre l'église au milieu du village. Ce n'est qu'une expression bien évidemment. Alors nous avons la chance aujourd'hui de vous recevoir en studio à Strasbourg avant que vous ne soyez rappelé sous les drapeaux israéliens. C'est à venir, vous êtes rappelé, vous n'allez pas rester très longtemps.
Je suis rappelé déjà. Au moment où j'étais à l'aéroport pour venir à Strasbourg pour les fêtes de Rosh Hashanah, donc il y a quelques jours, j'ai été appelé en même temps, au même moment. Quand on est appelé, dans les 6 heures, on doit être à la base. Donc voilà, là j'ai pu partir quand même. J'ai prévenu que je partais parce que je ne pouvais pas faire demi-tour. Et dès que je peux, il faut que je reparte.
Et la difficulté de trouver un avion qui vous mène en Israël.
Entre les annulations, les prix exorbitants et certaines compagnies, bon, Elal surtout qui rapatrie les réservistes, mais bon, c'est aussi des conditions, et il faut aussi, c'est une bataille en soi. Voilà, c'est un peu laborieux, mais voilà, mon unité est déjà entrée au Liban là, depuis 2-3 jours.
C'est votre unité qui est entrée au Liban. On déplore déjà une victime dans les rangs de l'armée de Tsahal, vous le connaissiez ?
Il y a un francophone qui est tombé dans la nuit qui est tombé cette nuit. Je ne sais pas quand on sera diffusé l'émission, mais est tombé Ronny Ganizat. Je ne le connaissais pas personnellement, mais il fait partie du paysage francophone. Il n'est pas dans mon unité à proprement parler, mais il fait partie du paysage francophone en Israël, très engagé dans des associations, un père de famille aussi, une personne formidable.
Et comment est-ce que vous recevez justement ce genre de nouvelles ? Il y a quelque chose qui exacerbe la volonté, la motivation de retourner au front pour aujourd'hui mener un combat qui vous semble juste ? Ou alors ça vous fait réfléchir, il y a une peur qui s'installe en vous. Vous vous dites aujourd'hui, mais à quoi bon tout ça ?
Non, je ne me le dis pas pendant... Certainement, après la guerre et après tout ça, il y aura une sorte de bilan, de remise en question, etc. Mais tant qu'on est encore dans l'action, c'est très dur d'avoir du recul. Oui, il y a le sentiment de peur mélangé à un sentiment de responsabilité collective et d'engagement. Ça veut dire que je suis là, mais j'ai quand même une boule au ventre de savoir mes amis au front. Mais c'est sûr que je préfère dormir chez mes parents dans un lit douillet avec un bon repas chaud plutôt que d'être sur le terrain au Liban. Mais et de l'autre côté, il y a un côté un peu masochiste de vouloir y être quand même et de vouloir se faire violence, quoi.
Parce que aujourd'hui, la guerre, voilà, vous êtes un enfant de Strasbourg, né un peu avant 2000. La guerre, pour vous, c'était les films. Vous aviez une vision plutôt lointaine de ce que pouvait être un conflit armé. Aujourd'hui, vous êtes dedans. Est-ce que ça remet en cause vos croyances, de la façon dont vous appréhendiez justement un conflit armé, une guerre, ce que vous aviez vu à travers des images ou des récits peut-être ?
Clairement, ouais. Franchement, entre le... on a été éduqués à l'histoire de France, à l'histoire d'Israël, aux conflits mondiaux, etc. Donc c'est qu'on associe à une certaine époque ou un temps révolu, puisque aujourd'hui, entre les nouvelles technologies, un monde qui est développé et des solutions diplomatiques, ou en tout cas une guerre ouverte, c'est moins fréquent, ou c'est plutôt, en tout cas en Israël, on était plutôt sur des opérations jusqu'ici, oui, de quelques jours, avec seulement une partie de l'armée qui était mobilisée, en général l'aviation ou l'artillerie lourde. Mais voilà, j'ai vécu un peu la guerre en 2014, quand j'étais en service à l'armée. Tzokeitan, c'était une opération, bordure protectrice,
oui,
c'était comme ça qu'elle s'appelait, à Gaza, mais j'étais encore en formation, donc on n'est pas rentré dans Gaza. Et ça a duré que quelques jours, c'était déjà un peu j'ai perdu un peu ma naïveté par rapport à la guerre déjà à cette époque-là. Et je savais que quelque part, quand on a un ennemi qui est présent et qui est toujours là et qui veut qu'une chose, c'est votre destruction. Il y a un moment, il faut régler les choses par la force parce que c'est parce que voilà, ça devenait inévitable. Mais j'y croyais pas, hein, la vérité. Je pensais pas qu'il y aurait une guerre de cette ampleur et d'une durée comme ça en 2024 dans un monde qui est censé être un monde libre et développé.
Vous avez fait une formation à l'armée d'une durée de 2 ans, hein, comme toutes les jeunes hommes et jeunes femmes en Israël, où on vous apprend le maniement des armes et toutes les techniques militaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que déjà, c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Vous, aujourd'hui, tenir une arme, aller sur le front, c'est quelque chose que vous êtes amené à faire, que vous avez fait ?
Oui. Oui, oui, c'est un automatisme. En fait, dès qu'on remet la tenue militaire, il y a tous les automatismes qui reviennent. C'est incroyable comment est fait l'être humain. Ça veut dire, vous me demandez maintenant de prendre un truc, etc. Je vais réfléchir 2 fois, mais dès que j'ai l'uniforme, c'est un réflexe, quoi.
Vous avez été à Gaza, vous êtes entré dans Gaza, dans les tunnels, vous avez mené des opérations.
Oui, je suis allé à Gaza. Là, on est en octobre 2024. Depuis le 7 octobre, je suis parti tout de suite au front. 6 mois au Liban, 5 mois au Liban, à la frontière. Il n'y avait pas d'entrée terrestre sur le territoire libanais, mais il y avait une menace qui était à la porte, à la frontière.
Depuis le 8 octobre,
voilà,
oui,
depuis le 8 octobre. Donc, on était tout de suite sur place pour endiguer les tentatives d'incursion et les attaques du Hezbollah au nord. Et après, au moment de finir, ils nous ont dit finalement, il faut qu'on renforce, qu'on aide, qu'on soit en renfort à Gaza. Donc on est parti tout de suite après 2 mois et demi à Gaza, dedans. Donc on a fait pas mal d'opérations là-bas. Entrer dans les tunnels, c'est pas quelque chose qui est... très peu de personnes le font. C'est des commandos dans des opérations très spéciales. Oui. Sinon, on ne rentre pas dans les tunnels. Il y a un risque beau et énorme. Les tunnels, en général, sont piégés. Les tunnels, c'est plus compliqué, c'est élaboré. Il n'y a pas de raison d'y rentrer à proprement parler. Et les commandos, ils vont soit pour avoir trouver des otages, soit pour trouver des corps, soit pour trouver des informations qui peuvent aider à trouver les otages ou savoir où est l'ennemi. Ou les détruire, tout simplement. Ou mettre des explosifs et détruire les tunnels. Mais ils ne font pas rentrer d'autres unités dedans.
Aujourd'hui, opération terrestre à venir au Liban. Aujourd'hui, la menace iranienne, d'une réponse également d'Israël en Iran. Comment est-ce que vous appréhendez ça, vous ? Alors, en tant que militaire, on l'entend, vous n'avez pas le choix, vous y allez. La motivation est là, on sent qu'il y a vraiment une cohésion nationale autour de cette cause. Mais vous, en tant qu'humain, en tant que Strasbourgeois, David Saba ?
Il y a 2 choses. C'est que quand on n'est pas dans le cadre de l'armée, alors d'un coup, on a la vision globale de la guerre, un peu les analyses, qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'il y a eu, etc. Donc, c'est seulement maintenant que je prends un peu conscience de l'enjeu géopolitique qui est en train de se dérouler
sous nos yeux. Avec le recul. Hein.
Oui, avec le recul, que le Moyen-Orient est bouleversé avec ce conflit, que petit à petit, il y a aussi le sentiment un peu optimiste qu'on chasse de plus en plus cette obscurité, le régime des Mollahs au fur et à mesure. Mais quand je suis à l'armée, je m'occupe vraiment de ce qu'il y a autour de moi. Déjà, on est déconnecté, on n'a pas de téléphone. Et à part ça, je ne fais pas d'analyse, qu'on est vraiment sur le plan. Il y a une maison devant nous, il y a un terrain devant nous. C'est la seule chose qui me préoccupe. Le reste du conflit et les enjeux stratégiques... On n'en a aucune idée, on ne le sait pas tellement. On agit ce qu'il y a sur place, quoi. Des petits soldats, quoi, des petits pions qu'on déplace sur une carte. Quoi.
Comment est-ce que vous vivez entre les périodes où vous êtes appelé ? Alors, c'est à quelle fréquence à peu près que vous êtes appelé depuis le 7 octobre dernier ? Vous êtes régulièrement à l'armée, vous m'avez dit que vous avez rendu votre appartement à Tel Aviv en vous rendant compte que vous n'y étiez jamais.
Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est très aléatoire. On nous a appelé le 7 octobre, on y est resté pour 2 mois et demi, encore une fois. On sait quand on va à l'armée, on ne sait jamais quand est-ce qu'on ressort. Donc, si on en ressort. Mais il y a cette histoire. Voilà, nous, du jour au lendemain, en décembre, ils nous ont dit bah voilà, demain matin, vous rentrez à la maison et on se revoit en mars. Ils avaient sorti ça comme ça. C'est très troublant parce que d'un coup, on est un peu conditionné aussi à l'armée, très formaté. On s'est habitué à une sorte de rythme de vie, d'inconfort, etc. Il y a toutes ces conditions qui sont difficiles. Et d'un coup, on nous dit bah, vous rentrez chez vous à la maison et vous revenez. Sauf qu'ils vous donnent une date de retour, plus ou moins, ils nous avaient dit fin mars, et au final, au milieu de la période, entre guillemets, de vacances, ils nous ont dit, finalement, on vient en février, début février. Donc, en fait, c'est très dur d'appréhender les périodes, parce qu'on sait que... Mais on nous a dit une chose au début, on nous a prévenu, les officiers sont très lucides, ils ont dit cette guerre va durer, cette année vous êtes soldat, plus que vous ne serez père de famille ou chef d'entreprise ou employé, salarié, etc. Donc votre vie, elle n'est pas civile cette année, elle est soldat.
Et toutes les entreprises sont compréhensives justement quant à l'absence des hommes et des femmes qui partent sur le front ?
La plupart, oui. Le problème, c'est que sur la durée, c'est un peu plus compliqué parce que même si les entreprises sont compréhensives, elles ont besoin quand même de leurs salariés pour faire tourner la boîte. En tout cas, les petites boîtes surtout. Et c'est compliqué parce qu'il y avait quand même une loi un peu d'immunité des soldats qui sont rappelés en réserve de ne pas être envoyés. Mais malgré tout, il y a quand même des entreprises qui ont été amenées à renvoyer ou à suspendre le poste. Et c'est compliqué parce que d'un coup, oui, on est balancé. Enfin, c'est très dur. C'est un peu un sentiment de bipolarité, d'être... on ne sait pas trop comment réagir. C'est au jour le jour, en fait. Moi, je me suis dit, je laisse les choses venir. Les éléments que j'ai en ce moment entre mes mains, c'est ce qui compte, quoi.
Oui.
C'est très dur de se projeter.
Alors, moi, ce qui m'intéresse également, c'est votre point de vue d'Israélien type, entre guillemets. Aujourd'hui, on voit des manifestations à Tel Aviv pour réclamer, et c'est normal, la libération des otages. Aujourd'hui, comment est percé Netanyahou ? On sait qu'il est très décrié aujourd'hui parce que c'est un chef de guerre qui n'est pas prompt à la diplomatie et qui ne rencontre même pas ses plus grands alliés. Comment il est perçu à l'intérieur du pays? Est-ce qu'il y a une cohésion nationale justement autour de votre ministre?
C'est très compliqué parce qu'il y a un ancien premier ministre, Naftali Bennett, qui avait au début de la guerre dit quelque chose. Il était interviewé sur plusieurs chaînes de télé internationales, CNN, etc. Et lui, il avait dit, on lui posait plein de questions sur Netanyahou, et il avait dit, en temps de guerre, je ne critiquerai pas un chef de guerre et le chef de l'État parce que ça porte préjudice,
oui,
à l'image du pays, ça s'allie et c'est des conflits internes, on lave le linge sale ensemble, on va dire. Et donc, il se refusait à dire un mot de travers sur le Premier ministre. Maintenant, comment il est perçu de l'intérieur, c'est très compliqué, ça divise. Mais je pense déjà que c'est... Je prends du recul sur les choses. Gérer une guerre de cette ampleur avec des enjeux aussi compliqués, c'est... très compliqué, c'est très laborieux, quoi.
Donc il a l'appui du peuple, hein?
Non, pas de tout le peuple. Non, en général, oui, c'est comme un peu partout, hein, comme on dit. La majorité silencieuse, ça existe aussi en Israël, les gens qui ne sortent pas dans les rues pour manifester. Alors oui, il y a cette colère, parce que c'est normal. Les familles des otages ne peuvent pas dormir ni vivre.
Ils ont l'impression que les otages sont un petit peu sacrifiés.
Oui, c'est sacrifié sur l'autel. Mais et de l'autre côté, alors oui, il y a eu cet événement du 7 octobre où il y a encore énormément d'interrogations et ça, le peuple s'interroge sur ces interrogations. Est-ce qu'il s'agit d'un complot ? Est-ce qu'ils étaient au courant ? Est-ce que Netanyahou a finalement été au courant ou pas ? Parce que d'après ce qui s'est entendu, il n'avait pas été au courant qu'il allait se passer quelque chose alors que les chefs et les responsables de l'armée savaient qu'il allait se passer quelque chose. Volontairement ou pas, prévenu le Premier ministre. Donc forcément, cet événement a eu lieu d'une grande ampleur. Peut-être que ça n'était pas peut-être qu'on ne mesurait pas l'importance de cette préparation, mais moi, je me pose encore des questions. Gaza, c'est un territoire qui est ultra surveillé. Ils ont énormément de renseignements et qu'on ait pu laisser faire le 7 octobre, c'est compliqué. Alors oui, quand vous êtes chef de l'État le 7 octobre, vous prenez la responsabilité. Est-ce qu'il est coupable ? Je pense pas, parce que voilà, il y a des coupables, il y en a beaucoup. Au sein de l'armée, au sein du renseignement aussi, énormément au sein du renseignement, il y a beaucoup d'officiers qui n'ont pas entendu les jeunes filles qui sont, qu'on appelle en hébreu tatspitaniyot, qui observent les caméras et qui ont fait déjà depuis longtemps des rapports comme quoi il y avait beaucoup de mouvements inhabituels à la frontière de Gaza. Donc voilà, il y a toutes ces... C'est compliqué de gérer, je pense, un conflit quand on est chef d'État. Le peuple était déjà divisé avant, ça a renforcé cette division après la guerre, même si... et c'est marrant, à contrario, quand on est à la guerre, on se retrouve avec une sorte de micro-société où vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont pas votre âge, enfin, il y a de tout. Vous,
oui,
avez... toutes les religions, tous les degrés de pratique religieuse en tant que juif, vous avez tous les âges, tous les avis politiques, et on est ensemble pour une même mission. Et donc, pour moi, la micro-société,
elle représente le vivre ensemble.
Malheureusement, il est dans les unités à l'armée. Parce qu'on ne pense plus à qu'est-ce que pense l'autre. On a un danger de mort en face de nous et on doit compter sur l'autre pour nous protéger.
Vous faites corps ensemble. Et on parlait de cohésion du peuple israélien. Alors, au-delà de, du peuple juif, aujourd'hui, Israël s'est composé de tout un tas de religions également. On retrouve des chrétiens, beaucoup de musulmans. Aujourd'hui, il y a une cohésion nationale. Vous retrouvez ça ou c'est compliqué, c'est divisé ou il n'y a pas d'échange?
C'est compliqué. Il y a un vivre ensemble dans la mesure où on se fiche la paix les uns les autres. Ça veut dire que bon, on ne va pas commencer à s'embrasser, à s'enlacer, à faire une grande chaîne humaine. Non, pas du tout. Par contre, on se laisse vivre. Il y a 2 millions de musulmans quand même en Israël. Ils n'ont pas de problème pour vivre. Ils sont pas. Personne ne les intimide, les humilie ou quoi que ce soit. Ça veut dire c'est à l'inverse. Des fois, il y a beaucoup trop de liberté. Il y a beaucoup de manifestations pro-palestiniennes au sein des universités israéliennes. Quand ces mêmes étudiants, s'ils étaient dans un autre pays arabe, n'auraient même pas accès au savoir et à l'étude, etc. Donc, il y a une partie de la population musulmane qui est très hostile à Israël, alors qu'ils bénéficient des droits israéliens, des droits de la démocratie israélienne, et c'est compliqué de composer avec ça. Mais il n'y a pas de révolution, on va dire, de la population juive israélienne contre la population arabe. Donc, il y a ce vivre ensemble comme ça, mais qui est en surface.
Qui est en surface, ouais. Comment est-ce que vous recevez aujourd'hui la récupération politique de cette guerre par des extrémistes de gauche et par certains étudiants qui suivent aveuglément aujourd'hui...
En Israël ou en France?
En France, quand on parle de propagande, des mots forts, très forts, hein, génocide, hein, qu'on met justement devant le conflit, parce que c'est une façon aussi de trouver les mots pour défendre l'indéfendable. Enfin, c'est un petit peu compliqué tout ça aujourd'hui. Ici, au niveau de la communication, les choses sont, dans la société française, je parle, ne sont pas fluide. Il y a beaucoup de gens qui manifestent avec des kéfiers pour des choses, je parlais d'indéfendables, mais on en est là, c'est des groupuscules d'extrême gauche. Comment est-ce que vous, en tant qu'Israélien français, vous accueillez ça?
Moi, ça, à titre personnel, ça me touche plus. Certains vont vous dire, même des franco-israéliens en Israël, enfin, je m'en fous de ce qui se passe en France et de ce qu'ils pensent, de toute façon, c'est perdu pour eux. Voilà, moi, ça me tient plus à cœur.
Vous avez etc. votre famille ici?
Oui, j'ai ma famille ici. Et même, la France, c'est un pays qui me tient à cœur et j'y suis toujours très attaché. Et voilà. Mais je suis dégoûté, ça ne date pas d'hier, cette inversion de l'histoire systématiquement, de vouloir faire de la récupération d'une histoire et de se l'approprier, ou d'inverser les valeurs morales aussi, oui. Ou d'avoir une sorte de morale totalement bafouée, sous couvert de quand du bien, quand du mal, et l'humanité. Et voilà. Donc, y a aussi le champ lexical utilisé par les médias depuis plusieurs années, donc forcément, ça ne fait qu'amplifier ce champ lexical rhétorique où il y a à chaque fois des terminologies qui vous font comprendre qu'il y a un camp du bien et un camp du mal. Quand on utilise les termes de colons, de trucs, etc., forcément, on se dit, il y a un verrou émotionnel qui se crée, on se dit, ok, donc c'est eux les méchants et c'est eux les gentils. Et dès que, de toute façon, il y a une empathie exacerbée dans les informations, une fausse empathie exacerbée, etc., où il faut absolument détailler des histoires ou mettre les enfants au milieu de tout, etc., donc on peut plus faire d'analyse du moment où vous mettez de l'empathie dans une information. Donc même si vous pouvez expliquer que un pogrom c'est pas la même chose qu'une réponse militaire, ça, enfin voilà, vous avez très peu de personnes qui vous entendent. À part ça, oui, moi ça me, je sais que les étudiants c'est une cible très facile parce que les étudiants c'est la fougue, la jeunesse, l'idéologie, et on veut changer le monde et on veut rendre le monde meilleur, etc.
Aussi, ouais.
Et les politiques le savent très bien, ils savent très très bien instrumentaliser ça. Les lobbies sont très puissants, il y a beaucoup d'associations et de lobbies ici qui sont très bien financés, certainement par aussi beaucoup de corruption, etc. J'ai pas d'enquête particulière, mais bon, faut pas être aveugle. Et qui savent, parce qu'il faut pouvoir financer les manifestations, les goodies, les kéfiers, et le tractage, la publicité, etc., et brasser les foules. Ça se fait pas avec un seul appel, etc., ou avec un leader. Il faut pouvoir financer tout ça, et ça passe par des lobbies et des associations qui sont très bien financées, par qui je ne sais pas, mais voilà. Donc juste si les gens avaient plus de lucidité, et en plus le problème, Valérie, c'est qu'on est aussi dans un monde où on le sait déjà depuis très longtemps, les réseaux sociaux, le fait que les gens prennent plus le temps ni de comprendre, oui, ni de lire, mais voilà, c'est juste de la manipulation d'images, et on scrolle sur un écran, et voilà, C'est les émotions qui réagissent en premier plus que la raison.
David Sabat, on arrive à la fin de cette interview. Je voulais quand même parler d'un projet que vous avez. Vous écrivez une pièce aujourd'hui, justement, sur votre regard sur le conflit en interne. Une pièce que vous jouerez ici en France, on espère, en Israël également. Pourquoi l'idée d'écrire une pièce sur ce que vous vivez ?
C'est thérapeutique déjà.
Ouais.
Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas raconter, qu'on ne peut pas raconter. Il y a plein de choses, plein de personnes aussi, dont ma famille en premier, qui me posent plein de questions. Et c'est pas que j'ai pas envie d'y répondre, c'est que c'est pas le moyen par lequel j'ai envie d'exprimer la chose ou de raconter. Et je me suis dit que ça serait bien de le faire de manière artistique, théâtrale, parce que c'est quelque chose qui reste dans le temps, qu'on essaye de sublimer un vécu par l'art, et c'est ce que je cherche à faire. Et du coup, de raconter de manière humoristique et pas du tout de manière pesante,
oui,
la guerre vue de l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes à l'extérieur des gens, de comment ça se passe à l'intérieur, est-ce qu'on est en train de tirer en permanence? Non, pas du tout. Parfois, on est juste en train de faire une partie de cartes ou de rigoler, de jouer. Enfin voilà, on se détend, quoi. On parle de tout sauf de la guerre quand on est à la guerre. C'est ça qui est le comble, quoi.
Des histoires humaines, somme toute. David Sabat, merci infiniment d'être passé nous voir. Donc, je le rappelle, vous êtes réserviste de l'armée israélienne. Vous êtes chez nous à Strasbourg en permission. Vous nous avez fait la gentillesse et l'honneur d'être passé nous voir pour nous raconter votre expérience. Merci à vous.
Merci Valérie.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.